Les Français veulent être gouvernés par Louis XIV, mais un Louis XIV qui se soumettrait aux mêmes règles qu'un Premier ministre venu du Nord. N'y a-t-il pas un paradoxe là-dedans? Il y a en tout cas un paradoxe si l'on compare cela au dernier vœu de François Mitterrand. Vous aviez 4 ans. Alors, Frédéric Seitz, vous vous souvenez, vous étiez devant le poste de télévision de vos parents et François Mitterrand disait cela.
L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai, le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas.
Bonjour Jean-Claude Monod.
Bonjour.
Vous êtes professeur attaché à l'École normale supérieure de Paris. Lorsqu'on entend les mots de François Mitterrand, on se dit qu'il y a quasiment quelque chose de théocratique là-dedans, je crois, dans les forces de l'esprit. Et n'est-ce pas quelque chose qui finalement représente la formule, l'incarnation mystique du politique ?
Oui, je pense que François Mitterrand avait un peu ce désir de s'inscrire, en tout cas, dans une vision de la politique qui communique avec la mystique. Bon, c'est un vieux thème, y compris dans une certaine gauche un peu péguiste, disons, l'idée que la politique peut se transcender en mystique. Alors, c'est un thème toujours un peu glissant, mais qui peut avoir aussi sa noblesse, disons.
Et pourquoi glissant ?
À l'idée d'une mystique en lieu d'une politique, bon, il y a évidemment ça peut charrier toute une imagerie de l'unité, de l'enthousiasme d'un peuple, etc. On peut parfois avoir envie de quelque chose de plus sobre, de plus critique, de plus démocratique aussi. Et bon, c'est ce ton même assez paternel, disons, oui, qu'on entend dans le propos de François Mitterrand. Bon, c'était son propos d'adieu aussi, je pense. Il y a quand même quelque chose d'un peu testamentaire dans cette interview, dans cette allocution. Je pense qu'il ne pouvait pas le faire tous les jours. Il y a quand même un ton qui est à la limite, je pense, quand même du registre démocratique.
Mais si on reprend les différentes formes de domination du politique qui sont par exemple résumées par un sociologue comme Max Weber, on voit, Jean-Claude Monod, qu'il peut y avoir une domination d'ordre traditionnel, qu'il peut y avoir une domination d'ordre charismatique. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, toutes ces formes de domination ne sont pas complètement faillies du fait de la communication, du fait de l'évolution de nos démocraties, ce que montre, comme le disait Frédéric Seitz, la très faible popularité, pour ne pas dire moins, de François Hollande aujourd'hui?
Je pense qu'il y a des restes de toutes ces formes de légitimité qui assurent aujourd'hui encore un certain fonctionnement à la politique, un respect de la légalité et des fonctions, une croyance, disons, dans certaines traditions, dans certaines règles aussi constitutionnelles, bien sûr. Alors, la part du charisme, c'est toujours le problème, c'est quelque chose d'un peu impondérable, on ne sait pas trop comment l'objectiver, le mesurer. François Hollande n'a jamais été crédité, me semble-t-il, d'un grand charisme. On l'a surtout crédité, finalement, un peu par contraste, d'être une personnalité rassurante, pondérée, voilà, qui peut faire des raisonnements où on nuance ce qu'on vient de dire. Et il y avait quelque chose, évidemment, de reposant par rapport à d'autres figures, peut-être plus charismatiques en un sens, mais qui avaient fini par saturer de leur présence.
Vous pensez à son prédécesseur, peut-être ?
Je pense à la fois à son prédécesseur et à celui qui aurait peut-être dû, en principe, se présenter à l'élection présidentielle, Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire des personnalités quelque peu inquiétantes par leur justement par leur ego, par leur présence, par la façon d'assumer éventuellement d'être un peu des gens borderline, disons. Alors que bon, évidemment, il y a eu tout ce registre du candidat normal était stratégiquement intéressant, mais qui était en même temps sans doute problématique à mettre en œuvre une fois après l'accession aux fonctions présidentielles, qui ne sont pas des fonctions tellement normales.
Frédéric Seitz.
On parle beaucoup du retrait, de la hauteur que devrait avoir un président aujourd'hui, pour regretter que ça ne soit pas assez le cas. Et on voit qu'il y a beaucoup de critiques sur le fait que le président est amené à intervenir médiatiquement très souvent. Il y a l'exemple de Leonarda pour François Hollande, où tout le monde s'est un peu désolé qu'un président fasse le boulot d'un préfet ou à la rigueur d'un ministre de l'Intérieur. Mais La question peut aussi se retourner, on peut aussi, nous médias, s'interroger. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible pour un président d'avoir ce côté un peu distant, un peu monarque, qui s'occupe des grandes affaires, du cap général du pays, et qui laisse son premier ministre gérer au quotidien les affaires du pays, intervenir dans les médias, dans le sens où, si un président, avec l'accélération du temps médiatique qu'on connaît, avec les réseaux sociaux, etc., si un président n'intervient pas, ça donne très vite une sorte d'impression de vacance du pouvoir.
Oui, mais je pense que c'est toute cette difficulté qui dépasse évidemment François Hollande ici, qui est liée aux médias en continu, qui est liée à une attente de présence et de proximité. C'était effectivement un des thèmes évoqués dans les sondages sur la fonction présidentielle, mais qui vient en contradiction avec ce qu'on peut appeler un peu le pathos de la distance dans lequel François Mitterrand excellait, qui était de maintenir quand même une impression de hauteur, quelque chose qui relève de cette fonction avec tout son apparat, avec évidemment cette espèce de d'héritage monarchique clairement assumé par De Gaulle, dans lequel Mitterrand finalement s'est trouvé assez à l'aise aussi, mais qui est quelque chose évidemment de décalé par rapport aux médias en continu, à Leonarda et au prix du pain au chocolat. On est là dans effectivement des registres assez qui ne sont plus de la grande politique, disons.
Et justement, en matière de rituel mitterrandien, il y en avait un qui lui permettait de prendre de la hauteur, l'ascension de la roche de Solutré. Vous allez l'entendre face aux journalistes avec son énervement, c'était en 1990.
Regardez le spectacle que vous me ferez. Hein. C'est pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Alors moi, vous me gênez, quoi. Alors, je ne veux pas être discourtois. Mais pourquoi voulez-vous parler politique comme ça, ajouter quoi que ce soit? On a déjà annoncé ce que je dirais. Vous considérez que c'est acquis. Alors voilà ce que je voulais dire, d'un côté de l'inanité de cette cérémonie qui me met quand même légèrement désagréable. On pourrait croire à la limite, c'est moi qui vous ai convoqué pour ma plus grande gloire, afin que vous assistiez à mon expo annuel, qui consiste à monter quelques centaines de mètres, et vous pour attendre que. Le scoop d'un mot de travers qui tomberait plus ou moins bien, plutôt mal, et qui servirait à alimenter, rien, une semaine.
L'agacement de François Mitterrand par rapport aux journalistes, je pense qu'il n'avait pas beaucoup de considération pour les journalistes, tandis que d'autres présidents ensuite ont pu les recevoir de manière longue et co-rédiger avec eux des livres. Là aussi, on voit une évolution profonde de la pratique du pouvoir. Avec quelles conséquences pour vous, Jean-Claude Monod ?
Oui, mais là, je pense qu'effectivement, dans le fait d'auto-commenter son action avec des journalistes dans un livre, il y a quelque chose qui, d'ailleurs, introduit une durée assez nouvelle aussi, et encore un niveau de médiatisation un peu étrange, d'ailleurs, parce que c'est pas l'explication au peuple, c'est pas l'explication publique, c'est une explication commentaire qui mêle des registres, là aussi, assez différents, assez personnels, des appréciations du gouvernement, sur un mode qui brouille, d'une certaine façon, la communication, les modes de communication, et qui, bien entendu, érode, je pense, la force de la parole présidentielle. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elle, comme elle ne passe pas vraiment le cap de la communication publique, il faut qu'elle emprunte d'autres canaux, mais sur un mode qui mêle le personnel, le people, qui juge de l'action en cours. Donc, je pense que ça introduit encore de la confusion dans la communication publique, qui paraît n'être plus tellement maîtrisée.
C'est d'ailleurs, en fait, le terme qui distingue le plus peut-être François Mitterrand de ceux qui lui ont succédé, en tout cas Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est le terme de proximité. Ça n'était pas du tout un président de la proximité, c'était au contraire quelqu'un qui marquait une distance, c'est quelqu'un dont on ignorait pour une grande part la vie privée, les sentiments, il affectait l'indifférence. Tout cela, en fait, c'est quelque chose de complètement nouveau, puisque aujourd'hui on est dans le règne de l'affect, on est dans le règne de l'émotion et d'un président de proximité. Vous parliez du prix du pain au chocolat, ça fait clairement partie de la demande. Alors, est-ce que là aussi, il n'y a pas un paradoxe, Jean-Claude Monod ?
Oui, ça, je crois que c'est une des choses qui était apparue dans les enquêtes, d'ailleurs pas seulement du tout françaises, hein, européennes et aux États-Unis également, sur les attentes à l'égard des hommes politiques, c'est la proximité. D'ailleurs, Pierre Rosanvallon avait fait une de ces nouvelles formes de légitimité, la légitimité de proximité. On attend des hommes politiques qu'ils aient les mêmes préoccupations. Mais je dirais dans une certaine mesure, parce qu'il y a une part qui est un peu contredit par d'autres enquêtes qui montrent l'attente de l'autorité du chef qui donne un cap, qui incarne voilà une vision. Donc, alors évidemment, il faudrait la quadrature du cercle, ce serait celui qui combinerait proximité et vision, etc. Mais on voit que c'est quelque chose d'extrêmement difficile et qu'il y a peut-être des attentes contradictoires dans l'opinion. Qui tiennent peut-être aussi à ce cadre institutionnel, hein, où on a quelque chose qui avait été taillé. On a pu dire que la Ve République, c'était l'institutionnalisation du charisme de Gaulle, justement. Et bon, ensuite, il faut avoir une légitimité historique ou personnelle du même ordre. Et ça, c'est très difficile.
Justement, il y a un paradoxe sur la longue période, c'est-à-dire que le pouvoir du président de la République sous la Ve République, qui est déjà fort à la base, n'a jamais été aussi grand, par exemple, avec l'inversion du calendrier qui fait que les législatives maintenant dépendent de l'élection du président de la République depuis le quinquennat. Donc pouvoir politique de plus en plus fort de l'exécutif, et pourtant on a le sentiment, au fil des générations de présidents, si j'ose dire, que leur pouvoir est de plus en plus faible. Comment expliquer ce paradoxe ?
Je ne sais pas si on a le sentiment qu'il est de plus en plus faible. On a le sentiment que les politiques en général, ou que le pouvoir politique est plus faible par rapport au marché, par rapport à d'autres instances non élues. Donc ça, c'est une évolution quasiment du capitalisme ou du néolibéralisme ou des formes aussi de la construction européenne.
Enfin, donc c'est
de
uniquement tout... exogène.
Je pense que c'est en partie exogène. Maintenant, effectivement, il y a eu aussi une impression parfois d'auto-dessaisissement, et les changements que vous disiez quand même ont plutôt contribué à renforcer le pôle de présidentiel, hein, dans le partage des tâches, même du coup en modifiant éventuellement l'esprit de la cinquième, puisqu'quand Nicolas Sarkozy parlait du Premier ministre comme de son collaborateur, on avait l'impression qu'il n'y avait plus quand même cette espèce de diarchie qui était au principe de ce régime.
D'ailleurs, François Hollande, dans le fameux livre « Aujourd'hui, un président ne devrait pas dire ça », explique que François Mitterrand ne gouvernait pas assez, dans le sens où il ne surveillait pas suffisamment ses ministres, il avait un rapport trop lointain, et là, on voit bien, en fait, l'évolution de l'esprit de la Constitution, puisque précisément, vous me direz si vous êtes en désaccord avec cela, Jean-Claude Monod, cette Constitution, celle de la Ve République, elle est faite pour que le président ne se mêle pas des affaires courantes.
Oui, tout à fait. Enfin, à l'origine, il y avait évidemment cette idée que le président est quand même celui qui est essentiellement tourné vers l'international, qui est quand même l'homme de l'image de la France, des décisions qui engagent la France au plan de la politique étrangère. Et bon, les affaires courantes, c'est plutôt le Premier ministre. Mais c'est un partage qui est sans doute devenu presque intenable avec les attentes justement dirigées vers le président. Alors bon, ça, il faudrait essayer de faire l'historique de cette transformation et des causes qui ont conduit à cette situation où on ne sait plus très bien ce qui relève de l'un et de l'autre. Chaque président a l'air de redéfinir son périmètre par rapport, éventuellement contre son Premier ministre. Donc on a ces situations étranges où finalement la Constitution offre moins un cadre que quelque chose de très, très général avec quoi on peut jouer dans une sorte d'affrontement continu, puisque le Premier ministre est aussi toujours potentiellement un prochain concurrent.
Frédéric Saïs.
Manuel Valls. Il y a cette question donc qui est en filigrane de notre conversation sur la nature du chef dans la France de 2016. On voit cette crise de légitimité terrible, on voit que personne n'arrive vraiment à incarner quelque chose qui rassemble. On a eu aussi une société très fragmentée, donc c'est d'autant moins évident. Je voulais vous interroger sur une question un peu plus particulière, puisque vous avez travaillé, Jean-Claude Monod, sur la sécularisation, sur cette notion-là. Dans cette France, justement, aujourd'hui, il y a un débat énorme sur les religions, où on sent que leur place, et notamment celle de l'islam, hystérise la société. Est-ce qu'un chef en France, aujourd'hui ou demain, est condamné, selon vous, à être athée, ou au moins à être agnostique en public, à ne pas parler de religion, ou est-ce que finalement il peut s'en servir dans sa pratique du pouvoir ?
Bon, je pense que la République étant laïque, le président peut être ce qu'il veut, intimement, mais dans ses paroles et dans ses actions, évidemment, il doit neutraliser ses propres croyances. Je pense que c'était un problème à un moment avec Nicolas Sarkozy lorsqu'il avait...
Il faisait le signe de croix ?
Oui, lorsqu'il avait fait valoir que le prêtre était plus, j'ai oublié la formule exacte, mais davantage que l'instituteur pour l'éducation morale, etc., où on avait l'impression donc que certaines préférences religieuses avaient droit de cité dans la parole présidentielle, et donc que au nom d'une laïcité qui serait positive, on pouvait justement outrepasser, disons, cette réserve attendue de beaucoup de monde, mais plus du premier personnage de l'État, ce qui était problématique. Mais je pense que le président peut croire ce qu'il veut. Maintenant, effectivement, il y a ce cadre laïque qui est un frein à l'expression publique de ses croyances.
L'autre nouveauté par rapport à François Mitterrand, c'est le poids croissant des sondages et également leur multiplication. On écoute François Mitterrand se prononcer vis-à-vis des sondages. C'était en décembre 1984.
Depuis quelques mois, les sondages ne vous sont pas favorables. Alors, on aimerait savoir ce que vous ressentez à leur lecture. Et si, parfois, certains matins, vous n'êtes pas tenté de ne pas ouvrir le journal.
Madame, les sondages m'intéressent. Je suis responsable politique et l'état de l'opinion est forcément l'un des éléments de ma réflexion. Les sondages en France sont généralement assez exacts, du moins comme indication de tendance. Mais je ne veux pas paraître jouer au paradoxe. Je ne m'attarde pas à cela.
Je ne m'attarde pas à cela. Bon, évidemment, il y a toujours une part de comédie dans ce type de réponse des hommes politiques. Néanmoins, ils étaient moins soumis à la pression des sondages. De surcroît, avec les primaires aujourd'hui, la pression des sondages peut influer sur la désignation même du candidat. Et du coup, on a une évolution de la constitution, puisque aujourd'hui, en fonction donc de sondages, on se demande si François Hollande a ou non le droit de se représenter, Jean-Claude Monod.
Oui, ça, les sondages ont monté en puissance, à l'évidence, dans les dernières décennies et ont instauré ce qu'on appelait une démocratie d'opinion, avec effectivement ce fait étrange que finalement on intègre, que les électeurs, même pour les primaires, intègrent des résultats possibles, éventuellement du coup pour aller voter à la primaire des autres, pour éviter. Donc il y a, bon, ça complique beaucoup la prise en compte de ces outils de mesure de l'opinion, transforme évidemment elle-même l'opinion et joue dans un rapport beaucoup plus complexe aux politiques et à leur appréciation. Et bon, je pense que Mitterrand, effectivement, bon, il y a une part de jeu, et ce que vous évoquiez comme ça, son indifférence, et cette façon d'afficher son indifférence, qui était un élément du personnage, je pense, de sa hauteur. Mais ça renvoie aussi, il me semble, à cette espèce de construction étrange qu'il a faite entre ses convictions et sa profession. C'est-à-dire, c'est un homme qui, de temps en temps, pouvait dire « Écoutez, moi, j'ai quand même mes convictions fondamentales. » Et ça a quand même contribué à son personnage.
Frédéric Saïs.
Puisqu'on parle de sondage, on peut évoquer Emmanuel Macron. Puisqu'il existe avant tout pour l'instant pour cette raison-là, Raoul Girardet évoquait dans son grand livre Mythes et mythologies politiques la figure du sauveur comme l'un des quatre grands mythes. À votre avis, est-ce qu'en France aujourd'hui, il y a une sorte comme ça d'envie, d'appel pour un sauveur qui ne serait pas passé par les cases électives, mais qui serait là pour sauver le pays dans un contexte de déprime généralisée ?
Je pense qu'il y a toujours cette niche, disons, pour l'idée de quelqu'un qui n'est pas du système, pour jouer sur les... Enfin, alors, du système, évidemment, pour Emmanuel Macron, c'est un peu ambigu. On peut estimer que c'est aussi un pur produit du système. Mais cet imaginaire de quelqu'un qui n'est pas vraiment des partis, qui peut échapper au clivage droite-gauche et qui peut se reconnaître dans des modèles quasi... mystique, on y revient, comme Jeanne d'Arc, je pense que ça fait toujours un petit clignotement dans une part de l'opinion qui est fatiguée justement du poids des partis, et y compris des procédures internes aux partis pour désigner des candidats. Donc ça joue sur cet imaginaire un peu mystique qui reste présent dans notre vieille France.
Merci Jean-Claude Monod. On termine cette évocation de François Mitterrand par une évocation de sa caricature.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la mairie de Marseille ?
Ben, on fait ce que tu veux, hein ? Du moment que ça emmerde mon roi.
Mais pourquoi veux-tu emmerder mon roi, oh rascasse suprême? Qu'est-ce qu'il t'a fait?
Il ne m'a rien fait. C'est moi qui l'ai fait, hein? Ne confondons pas. Ah oui. Et maintenant, il veut me donner des leçons de socialisme à moi qui ai inventé le socialisme, hein?
Ah bon?
Mais attends, je croyais que c'était Jaurès qui avait inventé le socialisme.
C'est possible, mais moi j'ai inventé le socialisme à géométrie variable. Hein? Un socialiste qui ne m'aime pas est un mec de droite. Et un mec de droite qui m'aime est un socialiste.
Mathieu Coquet a dit que c'était il y a 100 ans, je vois, qu'il y en avait qui ne rataient pas un épisode du Bébé de Chou.